Tu y as pêché baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 23 mai 2023. Le Sénat adopte une proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculture. Qu'est-ce que ce nouveau projet de loi du milieu agricole? Quelles sont les mesures avancées? Quand pourrait-il être présenté à l'Assemblée nationale? Quelles conséquences ce dernier aurait sur le vivant en France et en Europe? Cette loi est-elle en accord avec les derniers plans et programmes mondiaux pour la protection des ressources de la planète et des systèmes vivants qui la peuplent? La proposition de loi a pour ambition d'assouplir les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et d'accompagner le monde agricole dans ses transitions. Elle traduit les recommandations législatives du rapport de la mission d'information sur la compétitivité de la ferme France du Sénat, dont l'objectif principal est de protéger l'agriculture française de la concurrence déloyale. Déjà dans les tuyaux depuis 2017, ce projet de loi ne cesse de ressurgir à des moments où le secteur agricole subit de plein fouet les conséquences des changements globaux. Perte de rendement, événements climatiques extrêmes augmentant les risques de maladies, perte de résilience des milieux cultivés. Concrètement, en quoi consiste ce projet de loi ? Les actions principales sont les suivantes. Si l'interdiction d'un pesticide menace l'économie agricole, le ministre de l'Agriculture pourra suspendre une décision de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, agence qui permet dans certains cas de stopper des pratiques menaçant la santé humaine, notamment. Cela pourra également redonner des remises sur la vente des pesticides, autoriser l'usage de drones pour la pulvérisation de biocides, mettre en place un haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, ainsi qu'un fonds spécial pour soutenir l'investissement et la recherche des petites filières. Proposer un livret agri pour faciliter l'accès à l'emprunt des agriculteurs. Maîtriser les charges sociales, en excluant les entreprises agricoles et agroalimentaires de l'application du bonus-malus sur les contrats courts. Et puis bien entendu, permettre des ouvrages de prélèvement et de stockage de l'eau à condition qu'ils s'inscrivent dans une démarche d'usage partagé. Pour rappel, l'Agence européenne de l'environnement a appelé fin avril à, je cite, « réduire la consommation de pesticides toujours autant vendus en Europe, bien qu'ils polluent l'eau, le sol et l'air, sapent la biodiversité et favorisent le développement de maladies ». La précédente feuille de chou portait sur le plan d'action d'une gestion résiliente de l'eau. Les 53 mesures alors décrites dans ce programme ne s'appliqueraient-elles donc pas au milieu agricole ? De même, pour rappel, le sol et ses fonctionnalités indispensables de stockage et d'infiltration de l'eau sont étroitement liés aux êtres vivants qui y résident. Comment assurer son rôle si les biocides ont créé des no-life land et que l'eau est retirée du cycle de l'eau pour être stockée dans des grosses bassines? Le contexte actuel de sécheresse sans précédent est-il invisible pour ceux qui rédigent ces lois et les votent? 25 départements ont déjà adopté des mesures de restriction d'eau pour faire face à la sécheresse. Il n'était que 8 au printemps dernier. Les interdictions de prélèvement pour des usages domestiques et agricoles sont déjà appliquées dans certaines communes. Actuellement, plusieurs territoires des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales, du Gard et du Var, du Puy-de-Dôme, sont considérés en crise, alors qu'aucun ne l'était l'année passée. Volvic est ainsi une de ces communes. et le Bureau de recherche géologique et minière alerte sur le fait que les trois quarts des nappes phréatiques présenteraient des niveaux modérément bas à très bas. Les zones humides, réservoirs de biodiversité d'importance sur le territoire et leviers clairement identifiés pour stocker le carbone, s'assèchent. Et d'après un dernier rapport de la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, de nombreuses espèces de ces milieux ne sont pas réapparues cette année. Des départements tentent de faire des actions localisées sur les tourbières, zones humides d'exception, et espaces tourbeux de la planète emprisonnant 30% du carbone mondial stocké dans le sol, soit environ 500 gigatonnes. Dans le Jura, depuis 2018, si on veut citer un exemple, des travaux sont menés pour recréer un équilibre hydrique à même de relancer une dynamique favorable à la tourbe et au piégeage du carbone. L'engagement local serait-il seul pour redonner une impulsion favorable aux vivants ? Les promesses du gouvernement fusent, les engagements aussi, comme par exemple celui de supprimer certains vols intérieurs courts en début d'année, ou encore atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat, et pour lequel l'État a une nouvelle fois été condamné ce 10 mai, jugé peu crédible dans ses actions pour limiter les impacts de l'activité humaine sur le climat et le vivant de manière plus globale. Amoureuses et amoureux du vivant, aurons-nous la chance de voir ces graines semées à la volée prendre vie ? En attendant, oublions un instant les vaches aux grands yeux et prêtons l'oreille à ce qui se déroule aux confins de notre planète. Les merveilles de ce monde éclairent la route de l'humanité depuis ses débuts. Laissons-les un instant se confier avec un récit fantastique. Votre mission consiste à trouver l'élément qui diverge de la réalité d'aujourd'hui. Voyage au centre de la Terre, chapitre 18, au centre du cratère du Sneffels. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait, marche sous nos pieds, devenait stalactite sur les autres parois. La lave poreuse en de certains endroits présentait de petites ampoules arrondies. Des cristaux de quartz opaques, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique !» m'écriai-je, involontairement. « Quel spectacle, mon oncle ! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge-brun au jaune éclatant par des gradations insensibles, et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ?»« Ah, tu y viens, Axel !» répondit mon oncle. « Ah, tu trouves cela splendide, mon garçon ? Tu en verras bien d'autres, je l'espère. Marchons ! Marchons !» Il aurait dit plus justement « glissons » car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. La boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Celle coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Davy. Et plus d'une fois, je consultais le thermomètre avec étonnement. 2 heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route. Mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas, au contraire. Certains souffles arrivaient jusqu'à nous, quelles causes les produisaient, à quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine. C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisée. Le mot « halte » me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit. Descendre aussi profondément sans rencontrer des bras de mer paraît impensable aujourd'hui. Depuis les années 1990, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique contribuent rapidement à l'augmentation du niveau de la mer d'environ 1,8 cm. À ce rythme, la simple fonte de ces calottes fera monter le niveau moyen des océans de 17 cm d'ici la fin du siècle. Un rythme sans équivalent depuis au moins 3000 ans. Le sol s'érode, les calottes glaciaires fondent, et tandis que le vivant peine à trouver refuge, l'humain s'essayerait donc encore à faire des bassines et à rogner toute avancée collective en faveur du vivant. Parlerons-nous de compétitivité lorsqu'il ne restera plus d'humain en capacité de se déplacer sous un soleil de plus en plus ardent. L'art nous demande de nous évader de cette condition si malencontreusement compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Les artistes nous offrent un second souffle et ouvrent nos horizons. Ainsi, dès 1992 et à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio, l'artiste Agnès Dénès propose une œuvre vivante et évolutive avec Tree Mountain. L'artiste a créé une petite montagne et avec l'aide de 11 000 personnes a planté 11 000 arbres afin de remobiliser les terres qui avaient été détruites par l'extraction intensive des ressources. Tandis que les glaciers fondent, Simon Beck est un autre artiste qui veut retrouver une musicalité dans ses paysages à première vue désertiques. Cartographe et dessinateur britannique, il invente le snow art au début des années 2000. Muni de raquettes, il dessine des motifs souples dans la neige et les filme avec un drone. Le land art, art qui est voué à évoluer et à disparaître dans les broussailles ou à mesure que la neige fond, est un médium de choix pour retranscrire la fragilité et la beauté du vivant. Des artistes parcourent ainsi les déserts et les montagnes à la recherche d'espaces isolés. Parfois, ils réhabilitent des sites pollués, d'autres entaillent le paysage en déplaçant des rochers. Toutes ces démarches ont le point commun d'investir temporairement des espaces avec les matériaux du site pour les révéler sous un jour nouveau où l'humain est simple vivant dans l'écosystème, agissant tel un contributeur, au même titre que le paradisier, oiseau aux couleurs flamboyantes, prépare sa scène pour faire une parade amoureuse parfaite, ou que les fleurs offrent des pistes d'atterrissage, telles des lampions de séduction pour les insectes pollinisateurs. Attirer, susciter l'envie pour aimer toujours un peu plus être dans ce monde des merveilles. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Tu y as pêché où? Baobab, acajou. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous galopons à travers champs pour donner l'oreille à des techniques de culture en climat extrême canarien.
Lissandre, mes lèzes tremblent, tremblent être noyées.